Allons-y avec notre dernière invitée de la matinée qui vient tout juste de s'installer sur le plateau de la Radio Africaine. J'accueille Jules Guigui. Merci d'être avec nous, Jules Guigui. Vous êtes auteur et illustrateur autodidacte. Vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire. Vous êtes venu nous parler de votre roman publié en décembre dernier. C'est paru à la Société des Écrivains. Ça s'appelle Le Chasseur de Botamo. C'est un roman d'aventure à destination du jeune public. C'est bien cela ?
En effet. Alors, bonjour à Aïssata, bonjour au public et je leur souhaite de passer une très bonne année 2019.
Ouais.
Et effectivement, c'est un roman qui s'intitule Le Chasseur de Botamo et donc qui est adressé à l'ensemble de tous les jeunes, les ados, même les personnes âgées, on va dire tout le public.
Alors, l'histoire dans un petit village situé en pays Yacouba, l'ouest de la Côte d'Ivoire, un jeune homme, chasseur, nommé Boka, se lance à la poursuite d'un étrange animal au cours d'une partie de chasse. Après plusieurs heures de course-poursuite à travers la grande forêt, Boka se retrouve bien trop loin et perdu dans un univers étrange. Commence alors pour lui une aventure insolite. Alors, c'est un mélange de contes, de mythes, de traditions africaines. Cette jolie histoire, en fait, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de profondeur. Alors, quel a été l'objectif ? Pourquoi avoir décidé de faire ce roman et surtout de vous baser un peu sur les mythes et les légendes d'Afrique ?
Alors, l'objectif de ce roman, il est tout simple. D'abord, il a visé deux choses.
Ouais.
Dans un premier temps, je voulais toucher notre jeunesse, nos enfants. Alors, on a des enfants qui sont nés ici en Occident.
Ouais.
Et on va dire pour la plupart, pas tout le monde, mais pour la plupart qui sont un peu déconnectés, qui voient un peu de manière superficielle l'Afrique et tout ça. Alors moi, je me suis dit à ces enfants-là, il faut les approcher un peu de notre histoire.
Ouais.
Et donc, en cela, j'ai écrit ce livre où j'ai mis en scène l'histoire de Boka, voilà, qui, au cours d'une partie de chasse, va rencontrer plusieurs péripéties durant sa partie de chasse. Et donc, cette histoire-là est effectivement agrémentée de beaucoup de... on va dire
de rebondissements,
ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, on va percevoir le mythe africain. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ressortir le mythe africain? C'est parce que en fait, tout le monde voit l'Afrique d'une autre façon. Mais moi, à mon niveau, je voulais amener un peu la jeunesse à ne pas avoir peur un peu de l'Afrique.
C'est une Afrique justement magnifiée,
belle.
Profonde que vous racontez à
justement.
Travers ce roman. C'était important pour vous. Alors, est-ce que vous, par exemple, vous avez grandi en entendant des contes, des légendes d'Afrique ? Est-ce que c'est peut-être quelque chose qui vous a marqué, qui vous accompagne encore aujourd'hui, qui vous a peut-être poussé également à entreprendre ce travail ?
Oui, c'est vrai, effectivement. Et même quand on suit un peu l'histoire de l'Afrique de manière globale, Elle a à peu près la même histoire. Souvent, on entend dire nos parents, oui, il y a un chasseur qui est allé en brousse, il a disparu et il a rencontré tel. Voilà, c'est ça. Et c'est l'histoire commune. Hein. Ou alors même, on a nos régions, nos villages et tout ça, l'appellation des noms de nos villages, on va dire c'est un colon. Voilà, qui n'a pas bien entendu le nom et l'appellation et donc il a déformé. C'est toujours la même chose. Et donc, moi, j'ai entendu comme ça, souvent les parents, voilà, rencontrer ces petites histoires-là. Et effectivement, ça m'a accroché, ça m'a interpellé. Je me suis dit, bon, ben, écoutez, il faut que j'essaie de faire ça à ma façon aussi, voilà.
Et oui, parce que c'est un travail que l'on doit aussi entreprendre à travers la musique, par exemple, à travers l'écriture aussi, essayer de recenser tout cet héritage, toute cette tradition, ces mythes, ces histoires que l'on raconte en Afrique. Et c'est vrai que comme on a une forte tradition orale, on les écrit pas beaucoup, voilà, et donc elles se perdent au fil du, elles se perdent un peu au fil du temps. Oui, donc c'est important de les recenser aussi.
C'est ça. Et donc effectivement, l'histoire de Boka, c'est vraiment ce jeune chasseur là qui un jour va pour une partie de chasse et bizarrement qui disparaît, dont les gens n'entendent plus parler de lui et tout ça. Et dès qu'il apparaît dans cet univers étrange de cette tribu de singes qui sont comme des hommes en fait, en gros. Et ce dernier là,
il revient autrement, on va dire.
Voilà, c'est
quand
ça.
Quand il revient, c'est un autre homme.
C'est un autre homme, voilà. C'est un autre homme qui est transformé, qui ne voit plus les choses de la même manière en fait.
Alors, il y a aussi cet aspect pédagogique, puisqu'à la fin de chaque chapitre, en fait, il y a un lexique du chapitre, et puis des petites questions également pour comprendre ensemble. Donc, ça permet également aux plus jeunes de ne pas se perdre un peu dans ce vocabulaire qu'on ne maîtrise peut-être pas. Par exemple, un marigot, tout petit cours d'eau, vous expliquez ce qu'est le manioc, vous expliquez le vocabulaire, on va dire, un petit peu traditionnel ou mystique.
C'est important
pour vous aussi qu'il y ait cet aspect pédagogue.
Ben justement, parce que moi j'ai des enfants, et donc qui ne savent pas forcément
le kaolin.
Voilà, c'est ça, qui ne savent pas forcément qu'est-ce que c'est que le kaolin, qu'est-ce que c'est que la calebasse et tout ça. Alors donc moi je me suis dit, si toutefois je veux faire connaître l'histoire de l'Afrique, de Boka et tout ça, à ces jeunes-là, il faut bien que j'explique les instruments qui sont dans l'histoire en fait. Et voilà un peu ce qui m'a amené à faire à la fin de chaque chapitre un petit lexique qui permet à tout un chacun de comprendre l'histoire et s'imprégner. Et puis après, on passe au chapitre suivant, de sorte que l'enfant ou alors la personne qui lit le premier chapitre ou le deuxième chapitre puisse réellement savoir ce qu'il lit en fait.
Voilà. Alors, vous êtes auteur, vous êtes illustrateur autodidacte, vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire, mais vous avez commencé le dessin par la bande dessinée.
C'est ça, j'ai commencé le dessin par la bande dessinée. Alors, l'histoire, c'est vraiment toute une histoire. Et avant, je dessinais comme ça sur des petits bouts de papier et je dessinais des personnages européens. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais écoute, est-ce que tu connais l'Europe? Je dis non. Il dit, mais est-ce que si on te dit de parler vraiment de l'Europe, tu ne sauras pas? Donc, le mieux pour toi, c'est de parler de l'histoire de l'Afrique. Et j'étais là, je me suis dit, écoute, ce monsieur, il a raison. Donc à partir de là, j'ai commencé à dessiner tous mes personnages, c'était des Noirs, des Africains et tout ça. Et donc là, je me suis senti réellement bien parce que je savais de quoi je parlais effectivement. Et donc, quand je poursuivais toujours mon petit bonhomme de chemin,
ouais.
Alors c'est comme ça, j'ai pu un jour passer un concours de dessin,
ouais.
Et qui était mondialement ouvert à tout le monde. Et donc il y a eu 586 candidats,
ouais,
au total
à travers le monde.
Donc on a retenu que 54.
Et vous êtes venu au Salon du Livre de Montreuil.
C'est ça.
Salon du Livre Jeunesse.
C'est ça. Et il y a une petite anecdote, c'est que mon personnage principal que j'avais dessiné, parce qu'il fallait illustrer des tests, c'était moi, j'ai choisi les tests de Rulo Cortázar, et mon personnage principal, les traits que j'avais fait de ce personnage là, il ressemblait textuellement à l'auteur de ce livre là. Et donc quand je suis arrivé au Salon du Livre de Montreuil, l'organisateur monsieur Pétain, c'est Monsieur Patin, voilà, ça fait un peu longtemps, donc Monsieur Patin Alors il m'appelle, il m'accoste, il me dit, mais monsieur Jules, est-ce que vous avez déjà
vu l'auteur?
Je dis, non, je ne le connais même pas, je n'ai jamais lu. C'est... Il me dit, mais c'est bizarre. Je dis, mais comment ça?
Vous
il dit, mais
dessiné...
votre personnage principal ressemble à l'auteur. Je dis, ah bon? Donc il m'amène aux archives là-bas, il sort le livre, et je regarde effectivement le personnage.
Je dis, oh. Alors, donc, vous voilà. Expliquez aussi que vous êtes un amoureux des mises en scène et des scénarios. C'est-à-dire que c'est un film dans votre tête.
C'est ça, c'est un film qui se passe dans ma tête. Uh-huh. C'est vrai, c'est un peu comme les artistes chanteurs. Voilà. Donc, tout se passe dans ma tête. Donc, quand les idées viennent, je fais les découpages des scénarios, les dialogues et tout ça. Tout est dans ma tête. Et donc, je me dis, bon, voilà, faut que je ressorte ça sur papier. Et donc, à la fois, quand je dessine, je suis maquilleur, je suis décorateur, je suis habilleur, je suis tout, en fait. Voilà,
ce que non, mais c'est vrai que à travers votre écrit, dans le livre, en fait, on voit bien, on imagine, vous racontez bien l'environnement, la végétation qu'il y a autour, le contexte, l'ambiance, etc.
Ouais.
Et qu'on pourrait se dire, le chasseur de Botamo, on pourrait l'adapter en film d'animation, en fait.
Justement, ben c'est vraiment mon rêve absolu et je tiens la perche que vous me tendez et je passe un appel à toute personne qui souhaiterait travailler avec moi et voilà, histoire de pouvoir mettre ça en scène de manière sur les
théâtre,
écrans.
Mais
voilà,
moi, je pense que pour le jeune public, ce serait quand même
ça
mieux. Je vois plus un film d'animation, mais ça pourrait aussi, par exemple, être l'objet d'une pièce de théâtre,
oui,
par exemple.
Mais toutes les occasions, pour moi, c'est bienvenu. Alors, l'adaptation cinématographique, pour moi, franchement, ça va être le top, franchement.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public qui vous entend ce matin, Jules Guigui?
Alors, au public qui m'entend ce matin... Alors, je dirais que le livre, le roman, il est sorti. Et donc, ils peuvent avoir ce roman. Déjà, ils peuvent taper mon nom sur Google. Hein, ils tapent Jules Guigui. Déjà, le livre va apparaître. Alors, donc, aussi, ils peuvent l'avoir sur Amazon. Ils peuvent l'avoir sur Fnac.com. Pas dans les librairies de la Fnac,
mais sur Internet.
Le site de Fnac. Voilà,
ouais.
Fnac.com. Ils peuvent l'avoir là-dessus. Ils peuvent aussi...
On peut commander aussi.
On peut commander, c'est ça. Et aussi sur le site de l'éditeur, la Société des écrivains. Voilà, ils peuvent y aller et puis taper les chasseurs de Botamo. Et puis, voilà.
En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Ça m'a fait voyager en Afrique. Une Afrique rêvée, une Afrique féerique, une Afrique avec tout ce qu'on connaît, ces mythes, ces traditions qu'on aime.
C'est
le chasseur de Botamo. Vous le recommandez. On recommande également à vos jeunes hein, à la maison. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer, à l'offrir, par exemple, à votre jeune ado.
Oui, c'est ça.
Et puis, franchement, il est pas dur à lire du tout.
Non. Et on l'a en version papier et en version numérique. Et c'est pas du tout cher. Ils peuvent vraiment l'approprier. Et puis voilà, j'invite toute la jeunesse, pas forcément la jeunesse africaine, mais la jeunesse du monde entier à lire ce roman qui est riche d'enseignements. Et qui va faire voyager tout un chacun dans l'univers africain. Et voilà, il y a plein de choses à découvrir. Et voilà.
Merci d'être venu sur le plateau de la radio africaine, Jules Guigui. On vous retrouve sur Internet, Le Chasseur de Botamo, à vous procurer absolument. Merci beaucoup. Il est 11h34 sur la radio africaine. On avance avec Aya Nakamura, Niska, Sucette, le titre Bienvenue. No.